Bah, amour, c'est joli, quoi. Si amour, c'est pas amour, tu demandes amour, et
si tu veux amour, voilà. J'ai voilà. Juste envie de se faire à la prononciation qui est sur la page.
Ouais, c'est...
Tu roules l'air autour de toi. On fait finalement
amour. Oui, je crois que c'est... Socos, pareil. Tan, mais posca, fal, a, vos. Vos, c'est pas vos, c'est vos. Vos. Ça, c'est un haut vers vos. Tan de socos. Donc le O, le O fermé. Le O, c'est le O, il n'y a pas.
On parle de la comtesse de Die dans deux chansonniers. Donc il y a le W et le K. Et dans un de ces chansonniers, il y a la partition. Et dans un autre, il y a sa biographie qui fait peut-être 5 lignes, qui dit qu'elle était mariée avec Guillaume de Poitiers, amoureuse de Rimbaud d'Orange, et écrivait de belles chansons.
Il faut imaginer un monde où la foi guide à travers les mystères, où l'inconnu est vaste et sans fin, où il existe d'autres dimensions, où la mémoire est interne. Le savoir se transmet oralement, les gens racontent et chantent, ils font vibrer le verbe, leur corps résonne aux mots, il inscrit la mémoire dans les pores de la peau. Il en connaît autre chose que le sens.
Et comme je me suis toujours, de façon un peu détournée, intéressée à l'histoire et aux traditions, et que je pense aussi que je cherchais une façon de me lier à ce territoire que j'adore, et qui est très différente de chez moi, voilà, que j'essaye de comprendre. Je pense que c'était une façon aussi de m'inscrire ici et chercher quelque chose qui me concernait vraiment, quoi, en fait, qui me touchait. Et comme cette musique, elle revenait tout le temps dans mon travail, je me suis dit, bon, ben voilà, il faut le saisir. C'est de là où c'est venu l'idée de reprendre la musique et essayer de se l'approprier et puis aussi se laisser traverser par le processus. Dans la traduction, le français faisait ressortir quelque chose de très mielleux et qui ne me touchait pas vraiment, en fait. Mais quand je le disais, ou quand je le chantais, je sentais que c'était pas au même endroit que ce que je lisais en français. La chanson, c'est une femme qui s'adresse à un homme, probablement son amant, qui lui manque de respect, qui le zappe.
Il me faut chanter ici ce que je ne voudrais point chanter, car j'ai fort à me plaindre de celui dont je suis l'ami. Rien ne trouve grâce auprès de lui, ni merci, ni courtoisie, ni ma beauté, ni mon esprit. Je suis trompée et trahie comme je devrais l'être si je n'avais pas le moindre charme.
Moi, je le prends comme une chanson qu'elle adresse à lui, mais en fait qu'elle adresse surtout à elle-même en disant « Tu m'as zappé, tu m'as vu, mais est-ce que tu as bien compris? Tu m'as bien regardé? T'as vu comme je suis belle? T'as vu comme je suis intelligente? T'as vu comment j'écris des super chansons? Et quand même, tu oses ne pas me regarder, tu fais pas attention à moi. » Et en fait, c'est super universel, ce truc. Donc sur la comtesse de Die, on sait très peu de choses. Il n'y a que des hypothèses. La vie potentielle de la comtesse de Die, quand on croise les sources, on imagine 12e siècle. Mais ce qui est particulier, c'est que les traces écrites, c'est 13e siècle. Donc il y a 100 ans entre l'époque où elle aurait vécu et l'écrit. Dans ce cas-là, ça faisait déjà 100 ans que cette chanson circulait. Et en fait, c'est cette période-là de 100 ans qui interroge beaucoup, en fait. Moi, dans ma démarche, la précision historique, elle ne m'importait pas autant que l'idée du mouvement littéraire. Et puis aussi toutes les questions autour. Comment on laisse une trace qui écrit l'histoire de qui pourquoi il y a un buste à Die pourquoi les Félébriges ont donné ça à la ville de Die et là, donc, on perçoit... là, du coup, c'est très clair parce qu'il y a beaucoup d'écrits qu'en fait, on a utilisé sa figure, sa légende, si on veut, comme outil politique pour faire passer un message.
C'est avec peu d'empressement que le public d'Iwa avait accueilli le projet de dresser un buste à une femme inconnue qui ne semblait pas au premier abord mériter pareil honneur. Mais dès les premiers jours, quelques vaillants champions prirent à tâche de défendre la comtesse de Die contre l'indifférence de ses compatriotes et de faire réussir une fête qui devait avoir le double avantage d'animer, pendant une journée entière, l'ancienne capitale des Vaucances et de glorifier l'art poétique dans une personnification gracieuse.
En août 1888, quand le buste a été inauguré, donc il y avait plusieurs jours de fête, donc il y a tout un groupe de faits libres qui sont venus.
Les Occitanos de l'époque faisaient un tour de France pour faire la promotion de la langue occitane, de l'Occitanie et du socialisme, pour le coup. Et en fait, on sent bien dans les traces qui existent sur la pose du buste que, bon, il y avait une posture très 19e siècle, hein, mais qu'en fait, on cherchait quand même à asseoir quelque chose qui serait une culture occitane forte. Là où, en fait, où la langue, elle était déjà en train de disparaître. Et du coup, elle est transformée à ce moment-là en symbole.
Au premier rang de ces chevaliers servants, nous devons placer M. Maurice Faure, qui, le premier, avait songé à doter une ville qui lui est chère du buste de la Troubadouresse, œuvre de Mme Clovis Hugues, tant remarquée à l'exposition des femmes artistes en 1887. On peut le considérer à juste titre comme le promoteur de cette solennité félibréenne dont la population d'Iwoise ne perdra jamais le souvenir.
Il y avait plein d'histoires autour du buste. En arrivant à Dijon, on m'a dit ça, la sculptrice, elle aurait tué quelqu'un. Et à fur et à mesure, je regarde, et là, je trouve son nom, donc c'est son nom à elle, Jeanne Royanès. C'est une femme forte.
C'est une femme qui a vraiment évolué dans un milieu politique engagé et militant. Son père était républicain. Elle s'est mariée avec Clovis Hugues, donc, qui était journaliste, poète, mais aussi homme politique. Il appartenait un peu au milieu socialiste, et donc voilà, ses articles de journaux concernaient beaucoup tout ce milieu très, très animé, donc à la fin du 19e siècle. Et donc, Jeanne Royanès, finalement, on la connaît, je pense, davantage pour cet aspect plus public de sa vie. On est dans un contexte donc, de commune, c'est la commune de Marseille. C'est là-dedans, donc dans ce milieu-là, qu'elle évolue. Et dès qu'elle se marie, elle est prise pour cible. Donc c'est son mari qu'on cherche à atteindre, mais on passe par elle. Et donc, le jour de son mariage, elle est insultée par un journaliste bonapartiste qui s'appelle Joseph Dem. Et suite à cette insulte, Clovis Hugues provoque en duel ce journaliste et le tue. Quelques années plus tard, le mari est acquitté. Suite à cette première affaire, ils sont les deux époux donc sont à nouveau confrontés à des nouvelles agressions, on va dire verbales, des nouvelles insultes. Donc là, il s'agit d'une comtesse qui accuse Jeanne Royanès d'avoir séduit son mari. Et donc, à nouveau, hein, il s'agit un peu de diffamation, de mensonge. On vise encore une fois le mari, donc Clovis Hugues. On cherche vraiment à mettre un terme à sa carrière politique, qui est un peu montante à ce moment-là. Et donc, cette comtesse d'Osmond-le-Normand, elle s'appelle, donc, embauche un détective, Jean Morin, pour semer le trouble. Le tribunal, quand même, de Paris condamne ce détective en 1883, mais la comtesse a beaucoup d'influence, donc elle fait libérer le détective, et dès qu'il sort de prison, il recommence à nouveau les calomnies. Un procès est à nouveau prévu en 1884, qui est reporté. Et en fait, au bout d'un moment, Jeanne Royanès est vraiment lassée de toutes ces insultes et ces calomnies. Et donc, devant le palais de justice de Paris, elle tire trois fois donc, sur ce détective Jean Morin. Et donc il meurt, mais elle est quand même acquittée. Elle est acquittée en 1885. Donc on est au tout début de la carrière artistique de Jeanne. Sa première œuvre recensée, inventoriée pour le moment, c'est le buste de Ferdinand Gatineau, donc, qui était son avocat dans l'affaire qui l'opposa donc, au détective Morin. Donc Ferdinand Gatineau, voilà, elle représente son buste en 1886. Et donc, deux ans après, c'est la création du buste de la comtesse. Et ensuite, elle continue un peu comme ça sa production avec des œuvres qui se situent plutôt dans les années 1910. Elle a réalisé beaucoup de sculptures de personnalités contemporaines, donc du 19e siècle, qui gravite un petit peu autour de son milieu à elle. Et c'est surtout finalement son mari, donc Clovis Hugues, qu'elle a représenté à de nombreuses reprises. Donc on en a inventorié six sculptures de son mari. Et il est représenté à la fois poète et homme politique. Et donc cette histoire d'amour aussi, leur histoire d'amour donc à Jeanne Royanet et à Clovis Hue, qui a été un peu malmenée par, voilà, par le détective, par le journaliste, peut-être elle a pu se reconnaître aussi dans l'histoire d'amour qu'a pu avoir la comtesse de Die avec Rimbaud d'Orange. Son mari était aussi poète, et donc voilà, il y a un lien juste, l'amour de l'art, l'amour de la poésie, mais aussi l'amour tout simplement entre ces deux histoires, deux époques différentes.
C'est comme une flèche. Ça tire, ça donne, ça touche, ça...